Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com.
Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaînes musicales. Vous écoutez une émission de Choc.ca.
Bienvenue à cette édition du 16 juillet 2020 des Apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous d'actualité d'ici et d'ailleurs sur les enjeux touchant à l'immigration, à la sécurité nationale et au racisme. Marie-Ève à l'animation pour une deuxième émission, bien contente de vous retrouver après avoir fait relâche. On est toujours en pré-enregistrement, mais l'équipe de Choc nous a annoncé dernièrement un retour en studio début septembre, si tout va bien. Inutile de vous dire qu'on a pas mal hâte. Au programme aujourd'hui, aux actualités internationales, Mathieu nous parle de l'annexion forcée de la Cisjordanie par l'État d'Israël et des excuses de la Belgique pour les atrocités commises lors de la colonisation du Congo. Aux actualités nationales, Simon, lui, fait le point sur le sort des travailleurs agricoles immigrants temporaires au Canada en cette période de pandémie. Et de mon côté, je vous reviens avec un mélange de suggestions d'une pas mal déconfinée et d'événements militants. Avant de céder le micro à Simon, une nouvelle sur le thème de l'ironie. D'abord, fin juin, on a appris la démission du directeur du Musée canadien pour les droits de la personne, situé à Winnipeg, en raison, tenez-vous bien, d'allégations graves de racisme systémique, de discrimination et de harcèlement sexuel envers des employés du musée. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me fait un peu bizarre de retrouver dans la même phrase « musée pour les droits de la personne »,« racisme systémique »,« discrimination » et « harcèlement sexuel ». Ce sont d'anciens employés du musée qui ont dénoncé via les réseaux sociaux le racisme dont ils auraient été victimes à l'époque où ils y travaillaient. Les messages affirment que le racisme et la discrimination font depuis un certain temps partie de l'environnement de travail. Mais encore plus ironique, c'est que ces dénonciations-là ont émergé alors que le musée venait d'afficher son soutien officiel au mouvement Black Lives Matter. Et histoire d'en rajouter une petite couche, le musée a confirmé que de janvier 2015 au milieu de l'année 2017, il a appliqué une politique permettant, entre autres, à des établissements scolaires de demander l'exclusion de certains contenus de leur visite, comme des expositions sur la diversité sexuelle et les différentes identités de genre. Je veux bien qu'on soit pas là à une contradiction près, mais il y a bien toujours des maudites limites, n'est-ce pas? Sur ce, allons retrouver Simon avec un tour d'horizon de ce qui s'est passé récemment chez nos voisins du Sud.
Content de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Simon au micro pour une section états-unienne, toutes sortes de nouvelles assez variées, des bonnes et des moins bonnes. Je vous parlerai pas de Trump qui veut mettre Antifa sur la liste fédérale des organisations terroristes. Je suis sûr comme les soi-disant Black Blocs, les antifascistes étaient un peu surpris d'apprendre qu'ils faisaient partie d'une organisation officielle. Je vous parlerai pas non plus d'injections de désinfectants et de gestion de crise sanitaire qu'on peut qualifier de chaos absolu. Petite citation comme ça, vite, Trump a déclaré que son mur avait fait une très bonne job pour stopper le virus. J'ai hésité à vous parler de Kanye West, futur président anti-choix illuminé qui accumule les déclarations crypto-facho-surréalistes depuis des années. Pratiquement pire que Trump, honnêtement, mais je gaspillerai pas votre précieux temps sur lui. Je vous parlerai pas non plus directement de tout ce qui entoure le meurtre de George Floyd et les luttes antiracistes pour l'égalité aux États-Unis. Ça, c'est une vague de fond trop sérieuse, trop importante pour qu'on l'occulte ou qu'on l'insère rapidement dans des brèves comme je vais le faire dans les minutes qui suivent. Pour cette fois-ci, de toute façon, il s'est passé tellement de choses aux États-Unis dans les dernières semaines qui sont pas nécessairement reliées avec ça. Peut-être juste vous mentionner, en lien avec le racisme anti-noir aux États-Unis, une tendance qui semble se réinstaller. On ne sait pas si c'est une tendance lourde encore, mais il y a eu plusieurs pendaisons d'hommes noirs dans les dernières semaines. Souvent, ça se fait la nuit après des arbres. Il y en a eu 6 récemment dans 4 différents États, dont le Texas, la Géorgie et New York. En Californie et ailleurs aussi, on trouve de plus en plus des nœuds coulants qui rappellent le nœud utilisé pour pendre des personnes noires souvent, accrochées à des maisons, dans des quartiers noirs ou sur des églises fréquentées par la communauté afro. Tout ça, c'était des pratiques communes, typiques du KKK. Donc, résurgence de ce genre de meurtre raciste et de menaces au moyen de ces cordes avec des nœuds coulants. Beaucoup de communautés inquiètent actuellement. Et le président qui continue de qualifier le mouvement Black Lives Matter de vandale, de voyou ou carrément de terroriste, alors qu'en même temps, des vigiles d'extrême droite continuent à foncer en voiture dans des manifestations pacifiques et des ultranationalistes continuent à assassiner des personnes noires. Le Québec n'est pas à l'abri de cette haine raciale, ça on le sait très bien. Mais cette pratique qui consiste à installer un nœud coulant pour faire peur à un noir, ça s'est rendu jusqu'ici récemment. Alondé Junior George, un employé noir de Lafarge, compagnie de béton basée à Ville-Saint-Laurent, a trouvé il y a quelques semaines un nœud coulant accroché à son poste de travail. Le petit comique qui avait fait ça a été congédié. On revient tout de suite aux États-Unis. D'autres nouvelles récentes. On n'entend pratiquement jamais parler de la Première Nation des Lakota, qui est une branche de la grande famille Sioux. Beaucoup d'antiracistes se sont joints à des centaines de Lakota pour tenter de bloquer l'accès au Mont Rushmore au président Trump, qui voulait y tenir un rallye devant, vous savez, les fameux visages sculptés d'anciens présidents, qui sont tous des esclavagistes ou des génocidaires d'Autochtones, comme Lincoln, qui avait fait pendre 38 Lakota, et Roosevelt qui affirmait que les seuls bons autochtones étaient morts. C'est un monument d'ailleurs qui est sur des terres volées, sur une montagne considérée comme sacrée par les Lakota. On se trouve dans les Black Hills, dans le Dakota du Sud. Le blocage de la route a duré quelques heures, le temps que l'armée fonce dans le tas à grands coups de boucliers, de produits chimiques, bousculant des femmes, des enfants, des aînés, et menottant et arrêtant plusieurs d'entre eux et d'entre elles. Trump a finalement pu faire son rallye slash Nikavirus et les Lakota slash autochtones et leurs alliés ont mangé une trollée d'insultes racistes provenant d'un peu partout, dont le classique « qui retourne donc chez eux » et la soirée de Trump a été couronnée par un gros feu d'artifice en période de sécheresse en plein milieu de la forêt. On poursuit dans un instant nos actualités des États-Unis avec 2-3 nouvelles supplémentaires. On est sur Choc aux apatrides anonymes. Simon, toujours avec vous pour la suite et fin de ce segment sur les nouvelles des États-Unis. Trump avait déjà gelé pour 60 jours la délivrance des cartes vertes, ce qui est l'équivalent de la résidence permanente aux États-Unis. Il a donc reconduit ce gel jusqu'à la fin de l'année 2020. En plus, il vient de décréter le gel de nombreux visas de travail temporaires. La principale catégorie qui n'est pas visée par le décret, ce sont les travailleurs peu qualifiés qu'on envoie l'été dans les exploitations agricoles. Pour ce faire, ben, ça le dit exploiter au maximum. Pour à peu près toutes les autres catégories de visas de travail temporaires, c'est le gel total et ça va empêcher plus de 500 000 personnes d'entrer aux États-Unis. Maintenant, deux revers majeurs pour Trump, donc inversement, deux gains pour la société. Premièrement, bon, tout le monde se rappelle des enfants enfermés dans des cages à la frontière mexicaine et dans plusieurs centres de rétention, surtout dans les États du Sud. Et ça avait fait scandale parce que les conditions étaient épouvantables jusqu'à avoir des enfants morts. Mais ce qui, à l'époque, avait vraiment provoqué le scandale, c'était le fait que les enfants étaient séparés de leurs parents. Actuellement, il y aura encore environ 1000 enfants détenus séparés de leurs parents aux États-Unis. En raison de la COVID et du fait que ces prisons pour enfants sont devenues des foyers d'éclosion, on a commencé à en libérer. Ça a commencé en Californie, suite à la décision d'un tribunal de Los Angeles vers la mi-juin, qui a ordonné de libérer les enfants des 3 centres de rétention de la région. Ça crée une première brèche juridique dans les pratiques habituelles du ICE, qui sont très contestées. Ça s'est ensuite rendu jusqu'au niveau fédéral, alors qu'un juge fédéral, évidemment, a donné début juillet à l'administration Trump un délai de quelques jours pour libérer tous les enfants des centres de rétention pour personnes migrantes à travers les États-Unis. L'administration Trump a répondu que, comme l'ordre du juge ne concerne que les enfants, pour ce qui est des familles qui sont détenues ensemble, ils seraient obligés de séparer ces enfants-là de leurs parents, donc libérer les enfants et garder les parents en prison. Le fédéral poussait même la cruauté jusqu'à offrir la possibilité pour les parents de choisir, donc choix numéro 1, se séparer de leurs enfants pour les protéger de la COVID, ou choix numéro 2, rester toute la famille réunie ensemble, mais à grand risque de s'infecter à la COVID. Donc c'était plutôt odieux. Donc voilà la petite guerre de nerfs, les enfantillages habituels pour gagner du temps. Donc forcément, et si c'est pas déjà le cas au moment où vous écoutez l'émission, il y aura eu une autre décision judiciaire écrite par une cour fédérale qui va contraindre Washington à libérer probablement tout le monde, parents et enfants, des prisons pour personnes migrantes, ce que beaucoup de pays d'ailleurs ont fait dès les débuts de la pandémie. On termine sur une nouvelle vraiment cool. Les fameux Dreamers qui bénéficiaient depuis 8 ans d'une protection contre l'expulsion, qui leur garantissait de pouvoir rester au pays, ben Trump voulait démanteler le programme de protection et la Cour suprême des États-Unis a validé la protection dont bénéficient environ 700 000 jeunes qui sont arrivés enfants ou même bébés aux États-Unis. Le programme s'appelle DACA pour Deferred Action for Childhood Arrivals. La Cour suprême étant le plus haut tribunal du pays, bon, je suis pas spécialiste du droit fédéral aux États-Unis, mais ça ressemble pas mal à la fermeture définitive de ce dossier-là. Donc, une épée de Damoclès vient d'être enlevée au-dessus de la tête de ces jeunes-là, qui ont grandi aux États-Unis, qui connaissent que les États-Unis, dont l'anglais est en général la langue maternelle et parfois la seule langue connue. Donc, l'idée d'être expulsé au Honduras ou au Venezuela, où ça se peut que oui, tu es de la famille éloignée, mais que tu n'as jamais rencontré, ben disons que, en tout cas, cette perspective d'expulsion était assez effrayante pour ces jeunes-là qui peuvent enfin respirer un peu. Et Trump est fâché parce que deux juges très conservateurs qu'il avait lui-même nommés ont voté contre lui.
Merci Simon pour cette excellente revue de l'actualité états-unienne, surtout pour ta liste en début de segment des sujets dont tu ne nous parlerais pas, qui m'a bien fait rigoler. Pour compléter ton topo, j'ajouterais que les déboulonnements de statues de personnages peu recommandables de l'histoire coloniale et de l'époque esclavagiste se sont poursuivis depuis notre dernière émission, dont celle de Christophe Colomb, le jour de la fête nationale des États-Unis. Dans son discours à l'occasion du 4 juillet, qui marque le jour de l'indépendance, lorsqu'en 1776, 13 colonies britanniques ont proclamé leur séparation de la couronne britannique, le président Donald Trump a mentionné le navigateur génois associé au génocide des peuples autochtones. Je le cite et je vous mets au défi de ne pas éclater de rire ou de ne pas éclater en sanglots. Nous nous battrons ensemble pour le rêve américain et nous défendrons, protégerons et préserverons le mode de vie américain qui a commencé en 1492 quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Nous sommes en train de vaincre la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs et les pilleurs. Nous ne permettrons jamais à une foule en colère de démolir nos statues, d'effacer notre histoire et d'endoctriner nos enfants. Voilà. Mesdames et messieurs, que dire de plus? Alors, avant de retrouver Mathieu avec ses actualités internationales sur le thème du colonialisme, tant passé que contemporain, on écoute la pièce ACAB pour All Cops Are Bastards des artistes féministes d'Argentine Sarah Hebb et Sacha Satia. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte. Me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía. Dije que era cantante. Me pidió que demuestre. Quería que cante. Abrí grande la boca. Mostrando los dientes. Que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo: usted parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la.
La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos. Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones! Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Oui, c'est Mathieu avec vous dans la chronique internationale. Deux sujets aujourd'hui. Je vais commencer avec les enjeux très actuels entre Israël et la Palestine. Vous avez sans doute entendu parler de la question de l'annexion forcée ou unilatérale d'une partie de la Cisjordanie par l'État d'Israël. Depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, le premier ministre israélien Netanyahou répète qu'à compter du 1er juillet, il va avoir une annexion de 30 % de la Cisjordanie. Ça a été d'ailleurs une des bases de ses dernières campagnes électorales et de sa nouvelle coalition unitaire au gouvernement actuellement. Mais on ne sait pas trop de quelle terre on parle exactement, on n'a pas de calendrier précis. Il ne s'est rien passé le 1er juillet dernier, donc ça reste très flou. L'une des options évoquées concerne Ariel, qui est une grande colonie-ville, la plus grande en Cisjordanie d'habitation de colons. Sinon, il y a aussi la région de Maale Adumim et le bloc du Gush Etzion, près de Jérusalem. Ces parties-là, ces colonies-là, englobent 77 % des colons vivants donc en Cisjordanie, mais ça représente seulement moins de 10% de la Cisjordanie, donc il manque un bout qui pourrait être annexé pour atteindre le 30%. Peut-être pour rappel, vous dire que dans les années 90, les accords d'Oslo ont séparé la Cisjordanie en trois zones, A, B et C. Les deux premières, A et B, c'est 40% du territoire et c'est principalement sous contrôle palestinien, même si, bon, il y a, c'est pas une autonomie complète, on le sait. La zone C, qui est 60% de la Cisjordanie, se trouve sous contrôle militaire et civil israélien. Mais dans les accords, c'est dans l'optique qu'éventuellement, à la signature de l'accord final d'Oslo, il y aura un transfert éventuel aux Palestiniens lors d'un accord éventuel de paix définitif, ce qui est jamais arrivé, comme vous savez. Et donc, à partir du 1er juillet, le gouvernement israélien devait présenter une stratégie pour appliquer le plan Trump, qui a été le plan de paix, entre guillemets, Trump, qui a été publié en janvier dernier, qui prévoit partager environ 50% de la zone C. Puis il faut rappeler que dans cette zone C-là, il y a 450 000 colons israéliens. C'est énorme. Trois fois plus que lors de la signature des accords d'Oslo dans les années 90. Et il y a 300 000 Palestiniens, donc, qui vivent dans cette région-là. Il y a le quotidien La Croix qui est allé faire un tour dans la ville-colonie de Ariel, justement, qui a interrogé des colons. Vous allez voir, c'est assez édifiant quand même sur leur perspective. Un prétend qu'il est venu pour des considérations économiques plutôt qu'idéologiques. On le cite, « L'État nous offrait le terrain, il ne nous restait qu'à construire. Depuis, les prix ont doublé, j'ai donc fait un bon investissement. » Il dit aussi que les Palestiniens veulent aussi l'application de la souveraineté israélienne sur le territoire. Par contre, on sait que Netanyahou a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'aucun Palestinien ne serait nationalisé israélien, même s'il serait dans l'État d'Israël maintenant. Un autre dit « On ne fait que réparer l'erreur de 67 lors de la guerre de six jours, lorsqu'on a pris les terres sans y appliquer directement la souveraineté. » On parle ici évidemment des territoires occupés. L'annexion nous permettra de construire plus facilement. Nous avons encore plein de terres disponibles, dit-il, comme s'il n'y avait pas de propriétaires de ces terres-là historiquement et même actuellement qui sont les Palestiniens. Le Hamas et le Fatah, les deux entités politiques opposées en Palestine, se sont unis lors d'une conférence de presse conjointe le 2 juillet pour contester et se battre contre ce projet donc d'annexion forcée d'une partie de la Cisjordanie. On rappelle quand même que c'est les colonies qu'on va annexer et la vallée du Jourdain, qui est quand même une région très riche en ressources. Le plan américain pour le Proche-Orient a été rejeté par les deux entités puis par les Palestiniens en général, évidemment. Le texte prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire restreint avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui serait distante d'une cinquantaine de kilomètres dans le nouveau tracé. Nouveau découpage de la région et qui serait relié par un corridor. Je sais pas si ça va être un tunnel. Dans les faits, les conséquences sont déjà importantes pour les Palestiniens de ce projet d'annexion-là. L'autorité palestinienne a mis fin à sa coopération sécuritaire avec l'État d'Hébreu depuis le mois de mai. A décidé qu'il ne respectait plus les ententes avec les gouvernements américains et israéliens sur, entre autres, la sécurité. Par exemple, les personnes qui veulent se faire soigner, qui habitent donc en Cisjordanie, ou à Gaza, devait passer par l'autorité palestinienne pour avoir un permis spécial à Israël pour aller se faire soigner là-bas. Mais depuis mai, ce processus est bloqué. Les 150 000 employés de l'autorité palestinienne et leurs familles sont aussi victimes de la situation parce qu'Israël collecte depuis les accords d'Oslo les taxes et droits de douane pour les remettre ensuite à l'autorité palestinienne. Ce qui alimente 60% du budget de l'autorité, qui est comme le gouvernement palestinien en Cisjordanie. Or, depuis mai, Ramallah, le gouvernement palestinien, refuse cet argent et peine donc à payer ses fonctionnaires, dont les salaires ont été amputés jusqu'à 50%. Sinon, les policiers palestiniens ont cessé d'intervenir dans certaines bourgades isolées en zone C sous contrôle israélien. Donc ça, c'est des conséquences déjà de l'annexion à venir. Faut dire qu'en 15 ans de présidence, le président palestinien Mahmoud Abbas, du Fatah, a menacé plusieurs fois de mettre fin aux accords d'Oslo, aux ententes. Il l'a fait des fois, mais là, il va encore plus loin. Puis c'est son principal moyen de pression, c'est-à-dire se retirer des ententes sécuritaires, ce qui fait peur à Israël au niveau d'attentats possibles, par exemple. Mais cette rupture était attendue par la population, pour qui l'impopulaire coordination faisait l'autorité palestinienne l'exécutant des bases d'œuvres israéliennes. En outre, cette coordination sécuritaire contribuait aussi à réprimer les opposants du Fatah, de Abbas, notamment ceux du Hamas, évidemment. Je vous invite aussi à lire un texte du prof en sociaux de l'UQAM, Rachad Antonius, qui s'appelle « Le processus d'Oslo, une façade pour préparer l'annexion de la Cisjordanie », qui revient un peu sur les enjeux historiques qui mènent à la situation actuelle. Et je peux peut-être vous lire la dernière phrase de son texte qui est paru dans Le Devoir récemment. Il dit « Ce n'est certainement pas à Oslo qu'il faut revenir. C'est plutôt une politique de sanctions sévères pour forcer Israël à se conformer au droit international. Mais c'est pas cela qui se dessine actuellement. À un moment historique de remise en question des effets de la colonisation et de l'esclavage, le gouvernement canadien et la plupart des puissances occidentales continuent à appuyer une politique coloniale d'apartheid héritée du 19e siècle. » Parce qu'on sait que c'est vraiment l'enjeu du droit international, entre autres, qui est là-dedans. Pour en parler au Canada même, il y a un sondage qui a été commandé par trois groupes dont on vous parle de temps en temps. Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, les Voix juives indépendantes Canada et le réseau uni pour la justice et la paix en Palestine et en Israël. Un sondage auprès des Canadiens dont le rapport s'intitule « Hors de portée, la politique étrangère du Canada déconnectée de l'opinion des Canadiens ». Donc, on apprend dans ce sondage-là que 74% des Canadiens veulent que le gouvernement canadien exprime son opposition à l'annexion israélienne et que 42% sont d'accord avec les sanctions économiques ou diplomatiques contre Israël. On veut aussi que le gouvernement augmente sa contribution aux programmes internationaux de maintien de la paix et de lutte contre les changements climatiques et aussi que le gouvernement canadien augmente son soutien aux droits de la personne des Palestiniens. Le Canada a été assez absent dans ce débat-là récemment. Il a fallu attendre au mois de juin pour que le premier ministre Trudeau fasse part de ses inquiétudes profondes et son désaccord avec l'annexion et que les représentants du gouvernement n'ont indiqué que récemment qu'il n'y avait aucune chance que le Canada reconnaisse l'annexion. L'Union européenne, elle est plus prête à y aller au niveau de sanctions. Il faut rappeler quand même que le Canada n'a jamais reconnu l'annexion par Israël de Jérusalem-Est en 1980 ou du plateau du Golan syrien en 1981. Mais cette non-reconnaissance n'a pas diminué le contrôle israélien sur ces territoires. Et en parallèle, on donne comme exemple que lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014 de force, le Canada a réagi avec des sanctions dans ce cas-là. Je vais terminer là-dessus avec une démarche du groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient qui ont fait pression sur les députés du Parlement canadien, donc les 338 députés du Parlement canadien, pour qu'ils signent l'engagement de s'opposer au plan d'annexion forcée d'Israël de la Cisjordanie. Et sur les 338, il y en a 57 qui ont appuyé cette démarche-là, de quatre partis politiques. Le seul qui a aucun député qui a appuyé la démarche, c'est le Parti conservateur, évidemment. Et c'était assez mollo comme demande. Les députés devaient signer ce texte suivant, ce petit texte-là. « En tant que membre du Parlement, je comprends que le Canada a la responsabilité de défendre le droit international et les droits de la personne. Le gouvernement canadien se doit donc de faire preuve d'une opposition significative au plan d'annexion récemment annoncé par les dirigeants israéliens. » J'invite le gouvernement canadien à envisager tous les moyens diplomatiques et économiques susceptibles de mettre fin à l'annexion et d'inciter Israël à respecter le droit international. Donc, seulement 57 députés ont appuyé cet engagement-là sur 338, dont 2-3 libéraux. Donc, c'est un petit peu décourageant. Surtout que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup parce qu'en plus, dans un contexte de pandémie et de d'autres enjeux. Donc, ça risque de se passer dans les prochaines semaines sans qu'on sache trop comment, pourquoi. Ben pas pourquoi, mais comment et de quelle façon. Et que finalement, ça soit un fait accompli, donc dans quelques mois. Voilà, c'était pour ma première partie. Merci. En deuxième temps, je vais vous parler de la Belgique et du Congo. Vous avez sans doute vu ça passer. Le 30 juin dernier, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses plus profonds regrets au sujet de la colonisation. C'était dans le cadre d'une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Dans sa lettre, il parle d'actes de violence et de cruauté, et de souffrance et d'humiliation. En Belgique, comme partout dans les sociétés occidentales, depuis le mois de juin, il y a eu des manifestations contre le racisme et les violences policières. Il y a eu une grosse manif de 10 000 personnes à Bruxelles. Des statues ont été retirées, dégradées, décapitées, des plaques recouvertes de rouge couleur sang, surtout du fameux roi Léopold II. Qui à la fin du 19e et début du 20e siècle avait fait du Congo sa propriété privée et 10 millions de Congolais auraient été tués sous son règne selon les estimations. Le débat sur le passé colonial de la Belgique n'est pas nouveau. Depuis des années, il y a des groupes comme un groupe qui s'appelle Réparons l'Histoire, qui demande le retrait de toutes les statues de Léopold II. En 2019, un groupe d'experts des Nations Unies avait appelé la Belgique à des excuses pour les atrocités de la colonisation, mais la classe politique avait un peu mis ça de côté en transférant ça dans un ministère secondaire. Donc, voilà la réponse officielle de la République démocratique du Congo à la lettre au regret du roi belge. C'est la ministre des Affaires étrangères, Marie Tomba Nza, qui l'a fait en parlant du baume sur le cœur des Congolais, que ça pourrait marquer le début d'un changement profond dans les relations entre les deux pays. Mais beaucoup d'intervenants et intervenantes au Congo sont pas tout à fait enjoués de cette lettre de regret-là. On dit que globalement, ça a été relativement bien accueilli, mais beaucoup ont parlé du fait qu'il n'y avait pas du tout d'excuses dans la lettre, dans la déclaration, seulement des regrets, ce qui n'est pas la même chose. On parle aussi qu'il y a encore des enjeux pas réglés après la colonisation, après l'indépendance en 1960, parce qu'il n'en parle pas du tout dans sa lettre, entre autres autour de la mort de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier chef de gouvernement congolais après l'indépendance. On parle d'un acte de contrition hypocrite. Je cite un intervenant, pour qu'on pardonne à la Belgique, il faut que le pays reconnaisse ses erreurs, mais surtout qu'il arrête d'inférer encore aujourd'hui dans nos affaires. On parle aussi que la classe politique belge n'a pas terminé son autocritique. Human Rights Watch parle des réparations qu'il devrait avoir, qui viennent après les regrets et les excuses. Le groupe rappelle que le travail forcé, l'exploitation et la ségrégation sont considérés aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité. L'organisme demande des compensations financières, la reconnaissance des atrocités passées et des dommages qu'ils continuent de causer, mais également la fin des abus qui continuent d'être commis actuellement. En Belgique, on dit qu'une commission d'enquête parlementaire Vérité et Réconciliation va être ouverte donc dans les prochains mois. Le mouvement citoyen congolais Lucha demande des actes concrets pour restituer autant que possible le patrimoine accaparé, effectuer des réparations matérielles et ou symboliques et enseigner fidèlement cette histoire aux nouvelles générations. L'historien Pascal Blanchard, je le cite, « Le regret, c'est de ne pas aller trop loin, éviter de rentrer dans un cadre juridique et de dire qu'il y aurait une responsabilité juridique de l'État belge dans ce qui s'est passé au Congo par rapport à l'État belge d'aujourd'hui. » Le mot est aussi destiné à ne pas trop heurter les opinions blanches en Belgique. Il dit aussi, Pascal Blanchard, « On est sorti du temps du silence et on entre maintenant dans le temps de la déconstruction, s'excuser, construire la mémoire commune, décoloniser les imaginaires. Les générations d'après doivent gérer les erreurs, les égarements, la complexité des générations précédentes. » En Europe, est-ce qu'il y a eu d'autres excuses ou regrets dans le passé? Ben, le premier qu'on identifie, c'est notre grand ami Silvio Berlusconi, qui en 2008 s'est rendu en Libye, et je le cite, « Il est de mon devoir en tant que chef de gouvernement de vous exprimer au nom du peuple italien notre regret et nos excuses pour les blessures profondes que nous avons causées. » La Libye est une ancienne colonie italienne, évidemment. Mais on cite que c'est une déclaration pour des raisons intéressées, parce que Silvio Berlusconi avait fait un genre de troc en ramenant en Libye une célèbre statue de la Vénus de Sirène qui avait été volée là, au début du 20e, en échange de la construction d'une autoroute par des sociétés italiennes en Libye. Donc, on voit le côté très intéressé de Berlusconi. En 2015, Angela Merkel avait qualifié de crimes de guerre et génocide les massacres commis envers les Herero et les Nama en Namibie au début du 20e siècle. Mais la Namibie trouve que c'est insuffisant comme geste de réconciliation et exige toujours des excuses officielles. Ça a l'air qu'il y a des négociations entre l'Allemagne et la Namibie là-dessus actuellement qui devraient déboucher bientôt. La Grande-Bretagne a indemnisé en 2013 plusieurs milliers de victimes de la répression de l'insurrection des Marmars dans les années 50 au Kenya. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague, avait alors déclaré « Le gouvernement reconnaît que des Kenyans ont été soumis à des tortures et à d'autres formes de mauvais traitements entre les mains de l'administration coloniale » et avait présenté ses regrets sincères. Le roi des Pays-Bas, Alexander, a déclaré en mars dernier à Jakarta, en Indonésie, « Je voudrais exprimer mes regrets et présenter mes excuses pour la violence excessive de la part des Néerlandais au cours des années de répression menées par les Pays-Bas lors de la lutte pour l'indépendance entre 1945 et 1949, donc en Indonésie. » Et en France, la France, aucun chef d'État n'a pour le moment présenté d'excuses pour la colonisation. En 2017, Emmanuel Macron, en visite en Algérie, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Mais pour rappel, il est un simple candidat à l'époque à l'élection présidentielle. Depuis qu'il est président, il n'a pas repris ce phrasé donc de crime contre l'humanité par rapport à la colonisation. Par contre, en décembre dernier, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara. Il a qualifié le colonialisme d'une erreur profonde, une faute de la République. Est-ce que les excuses s'en viennent du côté de la France? Loin s'en faut. En terminant, l'Algérie, dans la suite ou dans la foulée de ce qui se passe avec la Belgique et le Congo, a demandé des excuses à la France pour la colonisation de l'Algérie. Le président Tebboune a dit « On a déjà reçu des demi-excuses, mais il faudrait faire un autre pas. » Récemment, pour l'anniversaire de l'indépendance, la France a fait un geste d'apaisement en matière de mémoire en restituant les restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française au 19e siècle. Les corps étaient exposés au Musée de l'Homme à Paris. Donc, c'est un peu ça la situation, bon, en Europe actuellement, mais c'est sûr qu'il risque d'avoir un effet d'entraînement. Mais de là à parler de réparation, de compensation, on est vraiment loin de ça. On est dans les premiers balbutiements, des regrets, peut-être des excuses. Donc voilà, c'était mon deuxième sujet sur la colonisation et l'Europe. Donc, merci.
Merci Mathieu pour ton résumé critique de la situation actuelle en Palestine, plus particulièrement en Cisjordanie, et pour ton retour sur les excuses que la Belgique a adressées au Congo et les réactions qu'elles ont suscitées. Tout ça nous rappelle que les logiques colonialistes sont pas des reliques d'un lointain passé, bien au contraire. Vous êtes toujours à l'écoute des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève avec vous à l'animation. J'imagine que, comme pas mal tout le monde, vous avez entendu parler de la lettre ouverte signée par plus de 150 personnalités issues d'un bout à l'autre du spectre politique, dont Noam Chomsky, J.K. Rowling, Margaret Atwood, Salman Rushdie. Lettre pour dénoncer ce que certains appellent la « cancel culture » ou « culture du bannissement et du boycottage » et la menace qu'elle représenterait pour la liberté d'expression. Sans entrer dans les détails, on pourrait résumer le message central de la lettre en disant que, selon ses signataires, et je cite, « l'échange libre des informations et des idées, qui est le moteur même des sociétés libérales, devient chaque jour plus limité, fermez les guillemets, à cause d'un ensemble de postures morales et d'engagements politiques qu'aurait une certaine gauche. » George Orwell a écrit que si la liberté veut dire quelque chose, c'est bien le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Difficile d'être en désaccord. Sauf que quand celles et ceux qui prétendent dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre le font depuis une position privilégiée, qui prend pas en compte les questions de classe sociale, de discrimination et d'oppression, et que ces personnes-là ont toujours bénéficié des plus grandes tribunes, il y a un sacré problème parce que ça entretient le statu quo et ça favorise la droite et les puissants de ce monde. Il me semble qu'au lieu de s'attaquer à ceux et celles qu'on n'écoute jamais et qui tentent de faire changer les choses, ou encore à une certaine gauche soi-disant assoiffée de conformisme idéologique, les signataires de la lettre devraient utiliser leur position privilégiée pour dénoncer les régimes autoritaires qui, eux, menacent non seulement la liberté d'expression, mais la liberté tout court. Par exemple, la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong, qui comprend des dispositions qui rendent illégale la subversion, notamment. Selon l'article 38 de la nouvelle loi, ces dispositions-là s'appliquent même à la planète entière. Concrètement, selon certains experts, ça veut dire que quiconque a publiquement fait la promotion de la démocratie et du maintien des droits de la personne à Hong Kong, même si cette personne-là a pas de lien direct avec Hong Kong et a même fait cette promotion alors qu'elle était pas présente sur le territoire, elle s'expose quand même à de sérieuses conséquences si elle y met les pieds. Au Canada seulement, il y a environ 600 000 personnes originaires de Hong Kong, dont beaucoup sont exprimées et ont fait pression sur le gouvernement canadien pour qu'il soit plus proactif en réponse aux violations par la Chine. Toutes ces personnes-là sont désormais susceptibles d'être poursuivies et extradées en Chine si elles se rendent à Hong Kong, par exemple, pour rendre visite à leur famille ou pour retourner dans leur ville natale. Quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les livres écrits par les personnalités du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont arrêté d'être proposés dans les bibliothèques publiques. Le gouvernement local a aussi déclaré illégal le slogan « Libérer Hong Kong, révolution de notre temps », qui était régulièrement scandé lors des manifestations pro-démocratie. Et ça, c'est sans compter les nouveaux pouvoirs que la nouvelle législation confère à la police, notamment en matière de surveillance. Mais dire que pendant ce temps-là, ben il y en a qui défendent la liberté de pouvoir de tenir des propos transphobes, homophobes, racistes ou misogynes. Vraiment, elle est belle, votre démocratie libérale. pour digérer tout ça et avant de se tourner vers Simon qui va nous parler de la situation des travailleurs agricoles immigrants temporaires au Canada en cette période de pandémie, on va prendre une pause musicale avec la formation belge La Marmite et leur toute nouvelle pièce Corona Hiatus 1984.
Notre monde n'a sans doute jamais connu de plus grande menace que celle-ci. Nous tous qui sommes à votre service, nous continuerons à défendre votre liberté et à repousser les forces qui cherchent à vous en priver. Votre ministère demeurera fort.
Unissons-nous face au malheur, devant nos écrans à 20h. On nous annonce la guerre mondiale contre un virus n'est pas banal. Mobilisation générale, amour, entraide et paix sociale. Sauvons des vies, l'économie, faut y croire quel qu'en soit le prix. Sans masque, tu bosseras, la mascarade applaudira. Mais sache que le télétravail, pas de chance, c'est pas pour les mandailles. La parole claire des gouvernants, sachant chasser les faux sachants. L'addition nous présentera, glissez dans les lois de Corona.
C'est la guerre sociale. L'État contre son
Chaque année, il y a environ 60 000 personnes venues de l'étranger qui travaillent dans des exploitations agricoles canadiennes, souvent pour le même employeur année après année, ce qui, de plus en plus, fait dire à plusieurs que c'est peut-être pas tant que ça des emplois temporaires. Bref, 2020, c'est une année particulière, donc comme pour tous les autres secteurs de la société, la COVID a mis au jour plus que jamais les injustices, les ratés de ce système-là de travailleurs agricoles temporaires. Programme qui est tellement temporaire qu'il existe depuis 1966. Donc déjà, des normes différentes appliquées cette année sur les exploitations agricoles, les frontières fermées, les modes de transport, ben les avions là, très très perturbés. Tout ça fait en sorte que le début de saison a été carrément chaotique dans le secteur agricole, avec des retards de quelques semaines qui ont pu être en partie rattrapés au fur et à mesure que les restrictions étaient levées par les différents gouvernements. Il y a eu des moments plus critiques, comme par exemple quand le Mexique a décidé, vers la mi-juin, d'arrêter d'envoyer des travailleurs au Canada. Il y avait eu plusieurs foyers d'éclosion de la COVID, surtout en Ontario et par la suite au Québec aussi. Dans la région de Windsor, il y a eu deux jeunes travailleurs temporaires mexicains qui sont morts et des centaines, voire des milliers de cas d'infection un peu partout au pays. Pour lever son interdiction aux travailleurs temporaires de s'envoler vers le Canada, le gouvernement mexicain a attendu d'avoir conclu une entente avec le gouvernement canadien, entente qui porte sur les conditions de logement, les conditions sanitaires, les inspections, des sanctions pour les employeurs qui respecteraient pas les normes, en plus des tests de dépistage, entre autres choses. Il y a un élément où ça bloque encore aujourd'hui, c'est qu'à l'arrivée au Canada, les Mexicains doivent se mettre en quarantaine pendant 2 semaines et certains employeurs refusent toujours de payer les travailleurs pendant cette période de confinement de 14 jours. L'interdiction pour les travailleurs mexicains de venir au Canada aura duré environ 1 semaine, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 5000 travailleurs mexicains qui ont été empêchés de prendre l'avion, ou du moins retardés. Le Mexique fournit chaque année environ la moitié des travailleurs étrangers dans le secteur agricole canadien. Il faut dire que peu de temps avant cet accrochage Canada-Mexique, il y a eu un rapport accablant, je dirais même dévastateur, présenté par Migrant Workers Alliance for Change, un groupe de défense de droits des travailleurs migrants. Le groupe avait recueilli les témoignages de 1162 travailleurs pour préparer son rapport, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. On y qualifiait les conditions de travail d'inhumaines et de dangereuses, surtout dans le contexte de la pandémie. On parle de manque de nourriture, de manque d'eau chaude, de repos et d'équipements de protection individuelle. On parle de mauvais traitements, dont du racisme, de surcharge de travail et même de vol de salaire. On parlait, dans le rapport, on parle aussi de manque d'accès à la nourriture. Certains témoins disent avoir été obligés de se rendre en ville pour s'en procurer alors qu'ils n'avaient pas encore terminé leur période de confinement obligatoire de 14 jours. On travaille et on vit en groupe. Les dortoirs, on a témoigné de dortoirs de 60 personnes avec une seule douche, des endroits où il n'y a pas de laveuse-sécheuse, des chambres à coucher qui avaient servi à héberger des chiens et qui sentaient l'urine, des matelas moisis, des toilettes dégueulasses, des transports bien cordés en minibus ou en fourgonnette. On donne l'exemple d'une ferme en Ontario où 164 travailleurs ont été testés positifs. Fin mai, au Québec, il y avait eu un premier foyer d'éclosion chez des travailleurs temporaires étrangers chez l'entreprise VegPro International en Montérégie. Le tiers des travailleurs qui venaient tous du Mexique et du Guatemala, donc le tiers ou environ 20 sur 50, ont été testés positifs à la COVID. Il y a aussi eu des travailleurs agricoles saisonniers qui échappaient à la fois aux normes habituelles et aux nouvelles mesures qui ont été annoncées suite à l'entente entre le Mexique et le Canada, parce que ces personnes-là sont sans papier. Il y aurait une véritable filière dans le secteur agricole pour les personnes non documentées, d'origine mexicaine ou autre, caribéenne souvent aussi. Donc là, on entre vraiment dans une zone d'ombre, un genre de free-for-all par rapport au cadre réglementaire ou au respect des droits humains de base. Il n'y a rien qui est appliqué pour les personnes sans statut dans le secteur agricole. Donc c'est un système organisé parallèle qui échappe aux inspections, même si les autorités sont bien au courant de son existence. L'exploitation, voire l'extorsion, peut être totale, puisque à tout moment, on menace les personnes sans papier d'être dénoncées aux autorités de l'immigration. Donc, il y a tout le temps cette sorte de chantage-là qui pèse. Donc, on leur déduit de leur salaire des frais prohibitifs pour leur hébergement, leur transport, leur nourriture, l'eau chaude, pour à peu près tout, malgré que ce qu'on leur offre comme condition, c'est horrible. Un exemple de témoignage recueilli, on charge 600 $ par personne pour une chambre partagée par 4 travailleurs. On jouerait aussi beaucoup sur cette corde sensible en faisant finalement de la petite psychologie, de la manipulation, donc en promettant des meilleures conditions, en faisant miroiter toutes sortes de choses, son travail plus fort, toujours plus fort. Donc en gros, ce qu'on dit aux travailleurs sans papier, c'est travaille plus, produis plus et je vais te donner une chambre privée, une chambre plus propre, plus grande, plus de nourriture, un meilleur salaire. Toutes des promesses qui sont évidemment jamais réalisées. Mais semble-t-il que ce sont des méthodes très répandues entre recruteurs et employeurs. Je crois pas avoir besoin de le préciser, mais personne ne distribue aux travailleurs agricoles sans statut des masques, des gants, du désinfectant. Il n'y a pas de test, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'inspection. En fait, si jamais il y en a des inspections ou des journées de tests de dépistage par clinique mobile directement sur l'exploitation agricole, les ouvriers sans statut ne sont pas présentés aux équipes médicales qui viennent tester les employés. On les tient loin de tout ça, là. C'est très grand, un champ, on les met à l'écart. Un autre témoignage mentionne que même en présence de symptômes de la COVID, des employeurs forçaient des travailleurs sans statut à continuer à travailler et à côtoyer de très proche leurs collègues dans des environnements confinés, en leur disant que le virus, ben ça existe pas, c'est des histoires, bref, en minimisant les risques. Surtout qu'on sait que l'information se rend pas nécessairement toujours. En continuant de les faire travailler, souvent dans plusieurs exploitations différentes, en les bougeant en minibus d'une exploitation à l'autre, question de bien contaminer un peu partout. Et quand les gens tombent vraiment malades et ne sont plus capables de travailler, on les abandonne. Début juin, il y a eu une journée d'action pan-canadienne organisée par une coalition réunie sous le nom de Migrant Rights Network pour réclamer la régularisation des travailleurs sans statut, que ce soit dans le secteur agricole ou partout ailleurs. Des travailleurs, des travailleuses qui, entre autres, n'ont pas accès aux services de santé, qui peuvent pas faire valoir leurs droits du travail de base, et évidemment qui doivent faire face à la crise sans accès à la prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU, et donc qui sont contraints pour survivre d'accepter n'importe quel emploi, peu importe les conditions. On dirait que dans cet engrenage-là du travail des personnes sans papier, tout se multiplie dans l'horreur. Donc, en tant que personne sans statut, tu acceptes des petits boulots souvent dangereux. Et si tu as un accident ou si tu tombes malade, tu peux pas être soigné parce que tu n'as pas le droit à l'assurance maladie. Si vous voulez plus de détails sur cette campagne-là, la coalition d'organismes s'est réunie sous les hashtags « Statut pour tous » et « Nous sommes tous essentiels ». Vous pouvez aussi chercher « Migrant Rights Network » pour plus d'informations. Il y a régulièrement des journées d'action ces temps-ci et il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent, donc soyez attentifs sur les réseaux sociaux.
Marie-Ève au micro pour un semi-retour de notre calendrier antiraciste. Semi-retour parce que je vous suggère encore une fois du contenu en ligne, mais je peux enfin aussi vous proposer une exposition et une manifestation. Pendant toute l'année 2019, le programme Relève et diversité de la Fondation Fabienne Collat a permis à 15 jeunes cinéastes noirs de Montréal, Toronto et Halifax de créer leur premier court-métrage sous le thème « Être noir au Canada ». Télé-Québec présente sur son site les créations des 5 participants et participantes de Montréal. D'une durée de moins de 10 minutes chacun, les documentaires abordent depuis différents points de vue les questions liées à l'immigration et à l'identité. Par exemple, Justice Ruticara, jeune homme né au Rwanda mais qui a passé son enfance au Kenya, s'interroge sur sa double identité africaine et québécoise en partant à la rencontre de compatriotes africains établis à Montréal. Les questions féministes ou qui touchent les femmes sont aussi omniprésentes et sont examinées sous différents angles. Deux des documentaires le font depuis une perspective artistique, l'un par un entretien avec une jeune femme, une jeune artiste féministe de street art d'origine haïtienne, et l'autre par des entrevues avec trois jeunes comédiennes également originaires d'Haïti. Les quatre jeunes femmes y parlent notamment des difficultés de vivre avec l'étiquette d'artiste noir, des façons dont leurs origines influencent leur art respectif, de leurs modèles et de leurs aspirations, à voir donc sur le site de Télé-Québec. Également, la Fondation Filles pour l'art contemporain présente une exposition collective sur le thème de la diaspora et la peinture. Intitulée « Relations » au pluriel, l'exposition propose une sélection d'œuvres de près d'une trentaine d'artistes qui abordent la question de la diaspora à partir de divers points de vue, approches et langages esthétiques. L'ensemble des œuvres exposées vise d'abord à établir un dialogue intergénérationnel et à présenter des artistes dont le travail a contribué à repousser les limites de ce qu'est et peut être la peinture. Évidemment, le Centre Filles, qui est situé dans le Vieux-Montréal, a mis en place des mesures de sécurité anti-COVID, donc vous devez réserver en ligne ou par téléphone pour visiter l'exposition. Et jusqu'au 30 août, les visites sont permises seulement du jeudi au samedi, de 10h à 21h. L'exposition est présentée jusqu'au 29 novembre et vous pouvez trouver toutes les informations au site de la Fondation, soit fondation-filles, filles étant P-H-I, .org. Enfin, dans le contexte de la vague de nouvelles dénonciations d'agressions sexuelles qui déferlent depuis 2 semaines sur les réseaux sociaux, une manifestation contre les violences sexuelles faites aux femmes a lieu ce dimanche 19 juillet à midi au Parc La Fontaine. La manifestation n'est pas organisée par un groupe en particulier et l'appel étant écrit au « nous », je me permets de vous en faire la lecture. Encore aujourd'hui, nous sommes frappés par les réalités du chemin qui nous reste à franchir. Au Canada, seulement 3 agressions sexuelles déclarées sur 1000 résultent à une condamnation. Parce que nous sommes las des lacunes du système judiciaire. Parce que nous demandons une justice équitable et inclusive pour nos sœurs et frères trans, autochtones et de couleur, ainsi que toutes autres personnes aliénées par la société. Parce que les travailleurs et travailleuses du sexe peinent à recevoir de l'aide dans une société qui les rejette déjà. Parce que nous sommes excédés et exaspérés de nous sentir invalidés, minimisés et banalisés, nous marchons main dans la main afin de lancer un message clair. Le 19 juillet prochain, nous unissons nos voix pour dénoncer haut et fort les abus dont nous sommes victimes. Cette manifestation est un mouvement collectif contre les actes houleux du Boys Club ainsi que ses témoins silencieux. Par cette marche, nous souhaitons conscientiser la population quant au problème des agressions sexuelles en tout genre, telles que la coercition sexuelle, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles et la culture du viol dans son ensemble. Nous désirons démocratiser le consentement, soutenir les victimes de façon concrète et éduquer la population vis-à-vis de ce fléau sociétal. Ce 19 juillet, nous défilons dans les rues de Montréal ensemble pour un avenir plus sûr, inclusif et juste. Au nom des apatrides anonymes, je tiens à exprimer notre solidarité avec les victimes et survivantes et à saluer leur courage et leur force. Nous vous croyons. C'est bientôt le moment de clore cette 29e édition des Apatrides Anonymes. Si vous nous écoutez en direct, on vous rappelle que vous pouvez aussi le faire en balado, en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et nous écrire à apatridesanonymes@commercialresiste.ca, par exemple si vous avez du contenu à nous proposer. J'en profite pour remercier mes 2 comparses, Mathieu et Simon. Et avant de se quitter, je voudrais revenir sur quelques nouvelles concernant la police de Montréal, notamment. Une coalition de groupes s'est formée et a tenu une conférence de presse le 7 juillet pour demander de désarmer les policiers et de les priver de matraques, de pistolets taser et de poivre de Cayenne. La coalition pour le définancement de la police, dont Black Lives Matter Montréal, Stella, qui représente des travailleuses du sexe, et Solidarité sans frontières font partie, se joint ainsi aux nombreuses autres initiatives un peu partout au Canada et aux États-Unis qui remettent en question le rôle des forces policières. La coalition demande aussi de réduire de 50% la somme de 665 millions de dollars qui serait octroyé au SPVM et de verser cet argent-là aux communautés noires, autochtones et autres groupes marginalisés. Mais la coalition va même plus loin que d'autres initiatives semblables et demande la décriminalisation de toutes les drogues et du travail du sexe, la libération des détenus et la suppression des casiers judiciaires qui y sont reliés, et la fin de la criminalisation et de la surveillance de l'immigration en éliminant toute collaboration entre la police et l'Agence des services frontaliers. Si vous doutez de la pertinence de telles demandes, l'Association canadienne des libertés civiles, l'ACLC, vient de publier un rapport qui estime le nombre de contraventions distribuées par les policiers ou d'accusations déposées par les forces de l'ordre au Canada en relation avec le coronavirus à plus de 10 000 en 76 jours seulement, du 1er avril au 15 juin. L'étude qui a été lancée au début avril et qui se poursuit tend aussi à démontrer que les personnes identifiées à certains groupes ou communautés spécifiques sont disproportionnellement ciblées par l'application des lois et règlements liés à la pandémie. Abby Deschman, qui est directrice du programme de justice criminelle de l'ACLC, explique avoir reçu de multiples signalements visant des agents d'application des règles municipales qui agissaient de manière inutilement agressive envers des personnes noires qui marchaient dans des parcs, les personnes autochtones, les immigrants, personnes immigrantes récentes et les personnes en situation d'itinérance et les jeunes seraient aussi disproportionnellement ciblés. Les constats d'infraction totalisent 13 millions de dollars, selon la CLC. Précisons que pour plusieurs personnes, là, le montant de l'amende représente un mois entier de loyer ou d'épicerie. Sur ce, on se laisse sur une pièce musicale de circonstance, 1960 Watt, de l'auteur, compositeur et chanteur afro-américain Gregory Porter. Alors, bonne écoute et à dans deux semaines.
Who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey! The Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey! The Motor City is burning, y'all. That ain't right. Of a people standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream. Ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. 'Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. Coming out
corner of a liquor store with three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight,
ain't no need for sunlight,
ain't no need for moonlight,
ain't no need for,
ain't no need for street lights,
ain't no need for,
it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Break out the mine.